Circulaire Talks, le podcast de ceux qui font l'économie circulaire, créé par Circulaire en partenariat avec Courrier Cadre. Dans ce nouvel épisode des Circulaire Talks, Sarah, directrice de la communication de Circulaire, et moi avons eu le plaisir d'accueillir Romain Zana-Bellegarde, responsable des partenariats chez Loop, entreprise de l'économie circulaire qui accompagne les distributeurs et les marques à passer à la consigne, et Thomas Bou, chef de projet au sein de la direction RSE de Carrefour. Historiquement, la consigne était appliquée en France sur les bouteilles et emballages en verre pour permettre leur réemploi. Cette pratique a progressivement disparu au profit des emballages jetables, notamment en plastique. C'est en voulant trouver une alternative à l'usage unique dont on connaît les conséquences sur l'environnement que Loop s'est attaché à remettre la consigne au goût du jour. Une ambition qui n'a pas manqué de retenir l'intérêt de la grande distribution. Depuis 4 ans, Loop et Carrefour travaillent ensemble pour transformer le modèle des emballages et l'inscrire dans une démarche d'économie circulaire. Romain et Thomas nous racontent les dessous de cette collaboration et les enjeux qu'implique la mise en place de la consigne pour un leader de la distribution comme Carrefour. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, nous sommes ravis avec Sarah, Romain et Thomas de vous accueillir pour ce 7e épisode des Circulaire Talks. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Sarah.
Bonjour à tous les trois.
Romain, pour commencer, je me tourne vers toi. Toi, tu es responsable partenariat chez Loop. Et en préparant l'épisode, tu nous as expliqué que la mission de Loop était de rendre le réemploi aussi simple, pratique et bon marché que l'usage unique. C'est un programme qui est ambitieux. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, chez Loop, du coup, vous vous y prenez et quelles sont potentiellement les difficultés auxquelles vous êtes confrontés?
Oui, bien sûr. Je pense que le premier challenge qu'on a, nous, quand on a retravaillé sur les sujets de consigne, c'était d'apprendre du passé. Apprendre pourquoi la consigne avait disparu il y a plus de 60 ans. Et donc ça a été toute une partie assez structurante pour nous permettre justement de travailler sur cette vision-là et aussi de l'éprouver sur le terrain. Et je pense que ça a été le gros de notre partenariat avec Carrefour et le point névralgique central de ce partenariat, ça a été d'éprouver des solutions, les tester, se tromper, changer un peu d'axe en fonction de comment on faisait évoluer la solution. On en parlera sûrement après, mais on a commencé en e-commerce, ensuite on a été en magasin. Et ça a été une vraie manière de construire notre solution d'aujourd'hui. Et donc, les difficultés qu'on a rencontrées, c'est déjà faire face à une non-connaissance de ce qu'est la consigne pour un industriel qui a perdu cette notion-là ou n'en a jamais fait. Et donc, l'objectif, c'était de vraiment essayer de comprendre comment on pouvait ne pas opposer différentes solutions RSE pour un distributeur qui disait, ou à une marque qui pouvait dire, ben moi je préfère faire du recyclage, ou moi j'ai pas besoin de faire de la consigne, ou je fais déjà d'autres choses. Donc le but c'était déjà de faire de la sensibilisation auprès des marques pour leur expliquer pourquoi la consigne était bénéfique, et ensuite de le prouver factuellement avec des ACV, des études environnementales sur lesquelles on peut s'appuyer. Et également le fait de travailler ensuite main dans la main à construire un nouveau business model. Et ça demande un changement de paradigme pour ces marques-là qui passent de « j'essaie de réduire le coût de mon emballage » à « j'investis dans un actif pour l'avenir ». Voilà.
Et ouais, quand on t'écoute Romain, on voit bien toute l'énergie qu'il faut mobiliser pour tenter de changer les mentalités et les comportements. Alors l'usage unique, c'est certes la facilité, mais comme Alexia le rappelait en introduction, c'est aussi des impacts dramatiques sur l'environnement. Si on s'intéresse aux chiffres, c'est assez impressionnant. Selon les Nations Unies, ce sont 8 millions de tonnes de plastique qui finissent chaque année dans les océans. Donc pour donner un équivalent, c'est comme si chaque minute, on avait un camion poubelle qui se déchargeait dans la mer. Donc on peut facilement imaginer les dommages considérables que ça peut causer aux écosystèmes marins. On a tous en tête d'ailleurs les images des tortues de mer emprisonnées dans le plastique. Et si on continue à ce rythme, on estime que d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Donc c'est un constat qui fait un petit peu froid dans le dos. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'une des principales sources de ces déchets plastiques dans les océans, ce sont les emballages à usage unique. En France, on estime que seulement 27% des emballages en plastique à usage unique sont recyclés. Tu parlais de recyclage tout à l'heure, Romain. Ce qui veut dire que même pas un tiers de ces emballages va pouvoir bénéficier d'une seconde vie. Donc les 73% d'emballages qui restent vont être enfouis ou incinérés. Donc ce qui va avoir des conséquences, bien sûr, sur la pollution des sols et les émissions de gaz à effet de serre. Et pire encore, parfois, ces emballages, en fait, ils finissent directement dans la nature avec les dégâts que l'on connaît. Alors, pour lutter contre ce phénomène, les pouvoirs publics sont intervenus en 2020 avec l'entrée en vigueur de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qu'on appelle la loi AGEC. Et parmi ces nombreuses dispositions, on retrouve notamment l'objectif d'augmenter la part des emballages que l'on va pouvoir réemployer pour remplacer ces emballages à usage unique. Et elle fixe un cap d'objectif à atteindre avec, d'ici 2023, un minimum de 5% d'emballages réemployés mis sur le marché. Et cette part passe à 10% en 2027. Donc on voit bien qu'au-delà de l'urgence environnementale, il y a des obligations réglementaires qui se développent et qui vont contraindre du coup l'émetteur sur le marché de ces emballages à usage unique à se transformer en profondeur.
Merci Sarah pour toutes ces précisions qui viennent encore une fois démontrer tout l'intérêt d'une solution comme celle que vous proposez chez Loop. Thomas, je me tourne vers toi maintenant. De ton côté, tu es chef de projet au sein de la direction RSE de Carrefour. Et le sujet du réemploi, ce que tu nous as expliqué en préparant l'épisode aussi, c'est pas un sujet qui est nouveau de votre côté. Vous travaillez dessus, sur la mise en place d'un système de consigne depuis déjà pas mal de temps. Donc est-ce que tu peux revenir sur l'évolution un peu de ces sujets au sein de Carrefour et voilà, nous en dire plus?
L'ambition sur le sujet, pour nous, elle est globale. Elle est de réduire les emballages et le plastique à usage unique. C'est une ambition qui a été initiée depuis 2017 chez nous et on a pris l'engagement de réduire de 20 000 tonnes nos emballages d'ici 2025, dont 15 000 tonnes de plastique. Pour ça, on a plusieurs axes. Dans un premier temps, on va supprimer le plastique, les plastiques qu'on appelle superflus, les plastiques de nos emballages. C'est le cas dans le rayon fruits et légumes, mais c'est aussi le cas dans les différentes catégories de produits à marque Carrefour. C'est le cas dans le textile. On l'a fait aussi pour les piles, les ampoules, et puis l'ensemble, à chaque fois que l'on fait ce type de mise en place de suppression de plastique, on est régulièrement suivi justement par le reste du marché, donc c'est aussi ça l'objectif. Et puis dans un second temps, on va développer toute l'initiative en faveur du réemploi. Ça a été le cas en 2018, lorsqu'on a lancé l'initiative Apportons Contenant, justement, qui a été intégrée dans la loi AGEC. Et puis, à côté, on va développer le vrac avec, justement, ces solutions de réemploi. On va mettre en place des sacs en tissu pour les fruits et légumes. On va réadapter l'ensemble de nos balances pour permettre à nos clients de venir, justement, avec des sacs réemployables et d'intégrer dans le parcours d'achat de nos clients des solutions de réemploi. Et puis bien entendu, la consigne, très récemment, on l'a lancée pour les courses du drive. Donc nos clients en drive, maintenant, font leurs courses avec des sacs qui sont consignés. Et donc ça y est, on arrête l'usage unique. Et ça, on l'a lancé il y a quelques mois. Et puis bien entendu, la consigne sur les produits de grande consommation, c'est ce que l'on fait avec Loop. Et ça fait bien entendu partie du projet. Ces tests, on les a menés au tout départ en 2019. On a commencé en ligne et puis ensuite on a lancé depuis 2 ans maintenant le déploiement dans une trentaine de magasins avec en Ile-de-France dans un premier temps et puis maintenant vraiment l'ambition d'accélérer cette année sur le déploiement dans de nouvelles régions.
Et donc concrètement, Romain, si je me mets dans la peau du consommateur et que je vais faire mes courses chez Carrefour, quel type de produit je peux trouver grâce à Loop et comment s'organise du coup le système de consigne pour le consommateur ?
Alors c'est très simple. Déjà, si vous rentrez dans un magasin, aujourd'hui les produits sont localisés au même endroit, donc sur un rayon qui s'appelle la consigne. Donc on ne peut pas faire plus parlant. Et vous pourrez y trouver une trentaine de références de différentes typologies de catégories de produits. Donc il y a la catégorie qui est appelée en grande distribution de liquide. Donc là, on va retrouver des eaux, des sodas, des bières, des vins, des spiritueux, mais aussi de l'épicerie. Et c'est là où est un peu l'innovation à travers le développement de nouveaux emballages, c'est qu'on va pouvoir retrouver des produits, par exemple, de Nestlé, des Ricoré, etc., des produits de grande consommation qui sont consommés par une grande partie de la population, et de l'épicerie sucrée. Donc ça, c'est les typologies de catégories de produits aujourd'hui qu'on a dans l'assortiment. Et ensuite, le fonctionnement, c'est très simple. En tant que consommateur, je vais acheter mon produit comme n'importe quel autre produit. C'est-à-dire que c'est aussi simple pour moi d'aller prendre dans une étagère d'un supermarché un produit réemployable qu'un autre typologie de produit. Donc c'est là où on a l'avantage par rapport à d'autres typologies de concepts. Et donc, en caisse, je vais payer le contenu de mon produit et le contenant. Donc de manière séparée, donc je vais voir le montant de consigne associé à mon produit. Et une fois que je l'ai consommé, je vais le ramener en magasin. Et donc là, en fonction des magasins, il y a deux options. soit je suis sur un petit magasin et je vais aller le rendre à la caisse pour me faire rembourser en espèces mes différentes consignes qui sont la somme des emballages vides que je vais ramener, ou dans les plus grands magasins qui disposent de points de collecte où là je vais avoir du coup un remboursement via mon application Loop Consigne. Donc voilà, vous y avez deux manières de vous faire rembourser la consigne. Et ensuite, nous, Loop, on s'occupe de collecter régulièrement les différents magasins. Et donc, on rapatrie donc tous ces emballages-là. On les trie, on rembourse la consigne, typiquement un magasin qui a lui-même remboursé la consigne à son client. Donc on rembourse le magasin de cette consigne et on refacture à la marque la consigne pour qu'elle puisse refaire de nombreux tours, on l'espère.
Et je m'adresse à tous les deux, là, voilà, une question justement sur l'aspect consommateur. Là, tu décris donc, voilà, comment ça se passe d'un point de vue expérience utilisateur, donc consommateur. Mais est-ce que ce soit de ton côté chez Loop ou de ton côté chez Carrefour, vous avez eu à faire face justement à des freins côté consommateur? Parce que voilà, il faut embarquer donc la grande distribution, les marques, le consommateur. Et est-ce que du coup, vous avez réussi à lever ces freins? Enfin, voilà, quels pourraient être encore les freins des consommateurs sur ce volet consigne?
Oui, bien sûr. Dans la construction d'un projet, on a toujours des freins qui vont apparaître et qu'on prend pour nous comme des défis. En fait, à chaque fois qu'on doit pouvoir construire un projet, on le fait en fonction d'une attente client. Et puis on va construire le dispositif, on va commencer avec des produits à tel endroit dans le magasin, et puis finalement on se rend compte que ça marche un petit peu moins bien, qu'il y a un petit peu moins de visibilité, et donc on va déplacer, on va expliquer dans un premier temps de telle manière comment est-ce qu'on se fait rembourser la consigne, et puis des retours à la fois de nos équipes en magasin, et puis aussi des retours de nos clients. On va réadapter. Récemment, on a mis en place des contours d'étiquettes, voilà, pour vraiment une meilleure lisibilité du prix de la consigne sur ces produits, parce que c'est quelque chose qui nous avait été remonté. Et donc voilà, à chaque fois, on va co-construire, adapter avec beaucoup d'agilité.
Oui, parce que c'est tout le challenge en fait que vous avez à relever aussi de votre côté, c'est qu'il y a énormément d'acteurs à embarquer pour que ça fonctionne. Donc c'est important, ouais.
Ouais, bien sûr, c'est le challenge numéro un qu'on a avec Carrefour, c'est la standardisation, on veut démultiplier ces sujets de consignes à tout le marché. Et donc pour ça, et c'est ce que nous demandent d'ailleurs les consommateurs dans les magasins, ils nous disent « Ah ben je trouve pas mon produit préféré, je trouve pas telle catégorie de produit, moi je verrais bien un jus de pomme, ou moi je verrais bien voilà, des catégories qu'on n'a pas ». Et donc c'est là où on se rend compte de l'enjeu qu'on a d'avoir une universalité des différents dispositifs de consignes et dans un maximum de catégories de produits pour pouvoir satisfaire un maximum de consommateurs et de rendre pratique, facile et bon marché la consigne. Et ça, c'est vraiment, je pense, notre guide au quotidien.
Oui, finalement, toujours avoir en ligne de mire l'utilisateur final qui reste le consommateur dans tout ce que vous pouvez mettre en place. Ok, du coup, de ton côté, Thomas, tu disais tout à l'heure que vous aviez équipé une trentaine, c'est ça, de magasins avec la solution Loop. Quels sont les objectifs, du coup, à terme de déploiement, du coup, de Loop dans les magasins?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on peut retrouver Loop dans 30 magasins, donc on a plus d'une trentaine de références de produits qui sont disponibles. Et ça, Romain, tu le rappelais, sur toutes les catégories, et ça, c'est très nouveau. On va de la boisson, qui est la catégorie, je dirais, pionnière dans la mise en place de la consigne, mais on fait aussi des produits d'épicerie, des produits d'hygiène, de beauté, donc ça c'est très nouveau, donc on va continuer sur cette tendance avec un objectif d'équiper 500 magasins à 2025 et de pouvoir proposer jusqu'à 1000 produits consignés, voilà, donc on a encore beaucoup de chemin à faire, on a hâte.
Et est-ce que tu peux nous rappeler, pardon, 500 magasins sur combien de magasins Carrefour, du coup?
Aujourd'hui, en France, on a plus de 3500 magasins Carrefour. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir atteindre 500 magasins d'ici 2025. Donc, c'est l'ambition qu'on s'est fixée. Aujourd'hui, on est à 30. Donc, ça se construit.
Étape par étape.
Bah, c'est vraiment intéressant d'écouter vos témoignages et de voir en fait les avancées du coup qui peuvent naître d'une collaboration entre un grand groupe comme Carrefour et une start-up comme Loop. Cette notion de collaboration, c'est une notion qui nous est vraiment chère chez Circulaire, et c'est ce type de belles histoires qu'on a envie de mettre en avant dans ce podcast. Thomas, si je me retourne vers toi en tant que chef de projet RSE, qu'est-ce que tu retires de ta collaboration avec une structure comme Loop, et est-ce que d'ailleurs, vous collaborez avec d'autres startups chez Carrefour?
Oui, bien sûr. On collabore régulièrement avec des startups Pourquoi ? Parce qu'elles ont une agilité, elles ont aussi une expertise technique dans des domaines qui sont très spécifiques et qui nous permettent à chaque fois de répondre aux irritants qui nous sont remontés par nos magasins et puis par nos clients. Et puis on a l'habitude, en effet, de travailler avec ces startups. Ça a été le cas lorsqu'on a lancé un challenge autour de l'anti-gaspi en 2016. On a récompensé Too Good To Go, avec laquelle maintenant nous travaillons depuis. On a plus récemment organisé un challenge innovation autour des enjeux du vrac, dans lequel plus de 60 startups ont participé. Toutes ont proposé des solutions vraiment très intéressantes. Et on travaille aujourd'hui en test sur deux magasins avec Vracop, qui est une startup du Sud-Ouest que l'on salue. Je me permets, voilà, Sébastien, si tu nous écoutes. Et Vracop, il travaille avec nous pour redéfinir une expérience client autour du vrac. Et donc, à chaque fois, cette collaboration entre nous et les startups nous apporte vraiment beaucoup.
Romain, tu es arrivé chez Loop il y a un an, c'est ça ?
Tout à fait.
Ouais. Travailler dans une structure qui est jeune comme Loop, c'est aussi parfois synonyme de bon sens et de débrouillardise. Et en préparant l'épisode, tu nous as partagé une anecdote qui nous a plu, qui s'est passée à l'occasion de la visite d'un cadre dirigeant dans une enseigne dans laquelle vous aviez mis en place une de vos machines. Mais à l'époque, vos machines n'étaient pas forcément tout à fait au point. Du coup, est-ce que tu peux nous repartager cette anecdote ?
Ouais, bien sûr, avec plaisir. Donc, ouais, effectivement, l'anecdote, c'était, on était à l'arrivée des projets de consigne Loop Carrefour en magasin. Donc, on passait du e-commerce au commerce physique. Donc, déjà, c'était un gros pas d'apprentissage pour nous. Et donc, ça passait par construire, designer des points de collecte dans lesquels on pouvait accueillir du coup des contenants réemployables. Et donc sur ces premiers modèles, on s'est aperçu en fait au moment où on a installé ces points de collecte, hein, malgré le fait qu'on ait fait des tests, c'est là où c'est important de passer de la théorie au concret, on va dire à la vie d'un magasin, parce que c'est là où tout se passe. On s'est aperçu que en fait on avait des taux de casse qui étaient hyper importants, et sauf qu'on avait quelques jours entre l'installation de ces points de collecte et le premier passage de la presse, de personnes assez importantes chez Carrefour qui venaient aussi tester le concept, avoir une idée sur ce concept. Et donc, en dernière minute, les équipes sont allées acheter des tapis de yoga de chez Decathlon pour tapisser en fait le point de collecte à l'intérieur pour éviter que cette casse soit trop importante. Et pour moi, c'est un bon exemple parce que ça montre à quel point un magasin, ça reste un terrain de jeu pour une petite structure. Et c'est aussi une opportunité d'apprendre pour faire évoluer sa solution. Et je pense que c'est ça qui caractérise vraiment bien tout le travail qu'on fait avec Carrefour depuis maintenant 4 ans. C'est comment on a fait évoluer la solution et elle continue d'évoluer aujourd'hui. On est encore loin de la perfection. Et voilà. Donc, ouais, c'était assez.
Merci pour ce partage.
Et là, on a envie de savoir, est-ce que les tapis de yoga ont été efficaces ?
Ils ont été efficaces. Formidable. Ils ont été efficaces.
Aujourd'hui, Romain, vous êtes une quarantaine chez Loop, répartis entre l'Europe, le Canada et l'Asie. Est-ce que quand vous signez un client comme Carrefour en France, il y a des passerelles qui se sont faites avec l'étranger ? Et d'ailleurs aussi, de ton côté, Thomas, est-ce que vous souhaitez déployer ce partenariat en Europe et dans vos magasins à travers le monde ?
Alors nous, de notre côté, notre ambition, elle est internationale. Je pense que l'objectif, notre mission, elle est animée par la réduction des déchets. Donc ça, c'est un sujet qui est global, qui n'est pas un sujet français ni européen, c'est un sujet global. Donc dans un premier temps, la vision, c'est de s'étendre au maximum parce qu'on sait que c'est un sujet de société. Et ensuite, c'est aussi d'apporter une solution à des partenaires qui sont aussi globaux. Et c'est aussi pour ça qu'on va travailler, en tout cas on a commencé à travailler avec des plus grosses structures parce qu'on voulait avoir un impact très vite, très fort. Et donc ces structures-là, elles cherchent pas une solution différente dans chaque région dans laquelle elles sont implantées, elles cherchent des solutions qui sont globales parce que leur supply chain est globale, parce que leur outil de production est global et international. Donc nous, on a vocation à l'échelle de Loop de pouvoir répondre dans différents endroits à ces problématiques-là pour ces acteurs-là, ces marques internationales. Et vis-à-vis de Carrefour, nous, notre objectif, c'est vraiment construire, comme on l'a fait depuis 4 ans. Aujourd'hui, on a validé déjà à échelle régionale ce fonctionnement-là, cet écosystème-là. La vision, c'est, comme le disait Thomas, d'étendre petit à petit le concept à échelle nationale, et puis on verra dans un temps si on a des bons résultats et qu'on arrive à prouver que le modèle peut aller au-delà, pourquoi pas l'Europe et d'autres pays.
Oui, tout à fait. Nous, bien entendu, on a également une super forte ambition sur le sujet. Après, aujourd'hui, c'est vrai, notre objectif, il se porte principalement en France, parce qu'on a un mode de consommation qui est extrêmement plébiscité par les consommateurs, et parce qu'on veut, comme tu le disais, déjà valider notre expérimentation avant de pouvoir la déployer à une autre échelle. Après, bien entendu, la consigne reste un enjeu qui va se développer de plus en plus, et donc l'ensemble des acteurs vont devoir s'en saisir. C'est évident.
On comprend bien donc avec vos deux témoignages votre envie commune en effet de tester d'abord à échelle voilà locale, régionale, nationale, et puis on vous le souhaite à l'international. On arrive déjà à la fin de cet épisode, c'est passé vite. Avant de se quitter, j'aimerais vous poser une dernière question. Si vous aviez un argument à avancer à un distributeur ou à une marque qui hésite encore à passer à la consigne, ce serait lequel ?
Alors, il y a plusieurs.
C'est jamais évident, c'est la question quand tu manques un.
Elles sont réellement multiples. Alors, je dirais que pour une marque, il y a trois grandes raisons. Et puis pour nous, distributeurs, il y en a une grande aussi. Donc déjà, peut-être pour la marque, c'est limiter son empreinte, limiter son impact avec la réduction des déchets qui est indue dans le système de consigne. D'un point de vue économique également, la consigne, elle va demain être compétitive, moins chère, par rapport à un emballage neuf. Donc collecter un emballage deviendra moins cher que produire un emballage neuf. Donc il y a un vrai intérêt économique. Et puis réglementaire aussi, on en a parlé. Mais la consigne va arriver aussi progressivement dans la réglementation. Et donc voilà, ça c'est les trois grosses raisons. Donc
je les accepte.
Pour nous, distributeurs, l'argument principal, il est la satisfaction client. Donc l'attente client, elle est très très forte. Elle nous est remontée par nos magasins. On organise régulièrement des tables rondes avec nos clients. On a aussi des écoutes qui se font à travers les passages caisses. Et donc toutes ces informations-là, elles nous remontent. Et donc l'attente, elle est très forte. Plein d'études également nous le montrent. On a deux grandes boussoles sur l'acte d'achat du client. Le premier, c'est le pouvoir d'achat. Le deuxième, c'est tous les paramètres environnementaux. Et donc, on se doit, comme on le fait avec Loop, de définir un système de consignes sur les produits de grande consommation qui soit optimal d'un point de vue de l'expérience client et qui soit accessible à tous.
Et de notre côté, ben, du coup, on a deux messages, un pour les distributeurs et un pour les marques. Je pense que pour les distributeurs, l'objectif, c'est de leur expliquer que la consigne, c'est pas une option, c'est une tendance de fond, comme le bio l'a été. Aujourd'hui, qu'importe le positionnement d'un distributeur, vous trouverez du bio, vous trouverez des gammes locales, des gammes régionales. Voilà, c'est un peu une tendance de fond. En tout cas, c'est comme ça que nous, on l'analyse. Donc, c'est de leur dire, rejoignez-nous dans cet écosystème pour être un pionnier, pour être un leader de demain sur ces sujets-là et d'être en avance quand ce sera une solution de marché à grande échelle par rapport à vos concurrents. Et vis-à-vis des marques, et je reprends un peu l'argumentaire de Thomas, c'est un argument purement économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a vu, il y a eu des crises très importantes sur les coûts de l'énergie qui ont explosé. On a vu des fournisseurs français, des verriers, stopper leur production parce que justement, ces coûts ne leur permettaient pas d'être suffisamment rentables. Et donc, le sujet n'est pas vraiment est-ce que je vais pouvoir acheter mon emballage à usage unique, mais est-ce que je vais trouver un emballage à usage unique ? Et donc, on a vu, par exemple, des fournisseurs de vin devoir passer sur des gammes plutôt de grande consommation du verre au PET. Et donc, nous, on apporte cette solution via la consigne, une solution qui est économique, et de leur dire, ben, vous aurez la possibilité de travailler et de revoir votre business model pour passer de comment je fais en sorte que mon emballage il me coûte le moins cher possible pour avoir une marge la plus confortable possible à j'investis dans un actif pour qu'il soit rentable à long terme. Et donc c'est vraiment ça le message qu'on veut leur faire passer, c'est une question de survie, et deux, c'est une question de vision, de pérenniser son modèle économique à long terme. Voilà.
Merci à tous les deux, Romain et Thomas, pour cet échange passionnant. Merci Sarah, à bientôt.
Merci à tous.
Merci beaucoup.
Merci.
Yeah. Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à lui mettre une note de 5 étoiles. Merci. À bientôt pour le prochain épisode.